Bonjour Marc Fesneau.
Bonjour.
Le député Mathieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, a fait savoir hier après-midi qu'il quittait le groupe La République En Marche, invoquant notamment des avancées très insuffisantes sur les enjeux climatiques, écologiques, mais aussi sociaux, précisant qu'il était l'un des 50 qui se sont abstenus sur la loi anti-casseurs mardi en première lecture. Qu'est-ce que révèle cette décision, selon vous ?
Je ne sais pas ce qu'elle révèle, en tout cas, moi je la regrette, parce que je pense que Mathieu Orphelin est un député qui, sur un certain nombre de sujets, notamment ceux que vous avez évoqués, apporte une contribution utile. Après, j'ai sans doute pas le même tempérament que lui. J'ai été député jusqu'à ce que je devienne ministre, et je pense que le temps politique est à temps long.
Vous avez reçu, faisons une petite parenthèse, hier, le prix du député de l'année 2018.
Oui, ce qui est assez sympathique, oui. De la part de vos confrères journalistes, puisque désormais je ne le suis plus, mais c'est donc il y a un petit clin d'œil assez amusant. Mais comme je suis au ministre des Relations avec le Parlement, j'y vois comme... aussi le salut au Parlement dans son ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que le temps politique est un temps long parfois. Mmh. On peut avoir le sentiment dans la vie publique, moi j'ai été élu local également, que parfois les décisions prennent du temps pas simplement parce que les politiques ne prennent pas les décisions en temps et en heure, mais aussi parce qu'il faut un temps pour que les choses soient mûries dans l'opinion. Et sur les sujets de la transition écologique et de la transition climatique, je pense qu'on a besoin que d'accompagner les transitions et pas de prendre des virages qui soient trop violents, parce qu'on voit bien à quel point parfois, pour les citoyens en particulier, et ça rejoint les préoccupations, je crois, de Mathieu Orphelin, ceux qui sont les plus en difficulté, ces transitions-là sont difficiles à prendre. C'est vrai qu'il y a une urgence climatique. Je partage absolument son point de vue, mais je crois que la majorité...
Mais il dit à ce sujet, nous ne sommes au bon rythme sur aucun des grands chantiers de la transition écologique.
Je trouve que d'ailleurs il y a contribué lui-même, que sur un certain nombre de sujets, quand vous voyez en 18 mois ou 20 mois ce qui a été fait par cette majorité, par ce gouvernement, il y a des décisions qui ont été prises, la fin des hydrocarbures, la fermeture de Fessenheim, une perspective sur le nucléaire qui est plus claire et plus aboutie. Et plus crédible, disons les choses comme elles sont, la fermeture du projet, si je peux dire, de Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de mesures en termes de transition énergétique. C'est vrai que sans doute il y a des choses qui peuvent aller plus vite, mais il me semble que, d'une certaine façon, et c'est presque ça que je regrette le plus pour lui et pour nous, c'est moi je renonce jamais à l'idée qu'on peut transformer la société, et même si ça paraît un peu, comment dirais-je, un peu long à l'échelle d'une vie humaine ou à l'échelle du temps politique, je pense que
c'est la pierre parfois devant l'évidence de l'impossibilité de réaliser ce qu'on voudrait. Confine pas parfois un peu à l'absurde ?
Non, je pense que non, c'est pas ça le sujet. Je pense que l'art politique, c'est l'art de combiner ce que serait un objectif très rapide et puis l'art du réel. C'est bien ça la difficulté permanente d'un homme politique, c'est la difficulté permanente dans la vie, parce que parfois vous avez des objectifs et pour les atteindre, vous mettez un peu plus de temps que prévu. Donc il faut à la fois combiner cette urgence climatique qui est réelle et la mettre dans les esprits et en même temps essayer d'œuvrer avec ce qui est possible, parce que vous voyez bien que le modèle économique qui est le nôtre est un modèle dans le monde basé sur le carbone et qu'on n'en sort pas comme ça.
Il reste donc, Marc Fesneau, 49 députés de La République En Marche qui se sont abstenus mardi en première lecture sur la loi anti-casseurs. C'est en particulier le fameux article 2 qui prévoit l'interdiction administrative de manifester qui leur pose problème. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés ou est-ce que vous allez les rencontrer? Qu'est-ce que vous allez leur dire?
Je les rencontre, vous dites 49, enfin c'est 308 ou 307 députés. Je ne trie pas les députés.
Je parle de ceux qui se sont abstenus parce que les autres a priori, il n'y a pas de problème.
Non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de problème qu'il ne faut pas discuter avec eux, débattre avec eux, essayer d'avancer sur les textes. Moi, je ne segmente pas les députés de la majorité, et d'ailleurs les députés tout court, en fonction de leur choix au vote. Il y a effectivement une cinquantaine de députés qui ont fait le choix de s'abstenir sur le texte tel qu'il avait été proposé par le gouvernement. Je rappelle, et c'est peut-être ça qu'il faudra qu'on améliore encore, mais il me semble que ce texte, il a déjà été profondément remanié par la majorité. Je vous rappelle que l'article 1 a été supprimé puis réécrit par la majorité.
Sur le périmètre autorisé.
Sur le périmètre d'autorisation. Le débat qu'il y a sur l'article 2, c'est le débat de... Est-ce qu'il n'y a pas un frein au travers de l'article 2 à la liberté d'aller manifester? Moi, je crois que pas du tout. Il y a des garde-fous, puisque c'est une décision de police administrative, donc c'est une décision du préfet. Mais qu'il y a des recours devant le juge administratif qui permettent de garantir... Et de faire en sorte que, si jamais il y avait une décision qui était contraire à l'état de droit et aux libertés fondamentales, elle puisse s'exercer. On l'a déjà fait dans un certain nombre d'autres actions, même si c'était pas les mêmes choses. Mais quand on a pris des dispositions contre les hooligans, où on a interdit à des gens d'aller à des manifestations sportives, c'était d'une autre nature. Enfin, ça s'est fait avec la capacité de recours qu'avaient ceux qui pouvaient être, comment dirais-je, ceux qui étaient visés par ces mesures.
Donc, est-ce que vous croyez à la sincérité des inquiétudes qu'expriment ces 50 députés, ces 49 désormais, ou est-ce qu'ils sont dans une une forme de posture politique.
J'espère et je crois pas. Je pense qu'on a besoin de clarifier les choses et de regarder avec eux et de réexpliquer devant eux ce que peuvent être les attendus de cette loi et de ce qu'elle vise. Elle vise à éviter que des gens dans des manifestations. Ouais. Elle vise pas à interdire les manifestations. Personne n'a volonté, et vous n'avez vu à aucun moment, et même parfois on s'est fait reprocher l'idée qu'on laissait des gens manifester, y compris en bloquant la circulation de façon longue. C'est une liberté fondamentale aussi de pouvoir circuler dans le territoire, et on a vu, lors du mouvement des Gilets jaunes, des gens qui pouvaient pas circuler. On a laissé ces manifestations se faire, simplement il y a des gens qui se sont adjoints à ces manifestations, ou qui parfois, à l'intérieur des manifestations, se sont laissés emporter par la violence. Ceux-là, il faut les mettre en état de nuire lors des manifestations. Oui, c'est normal. Et donc, je ne crois pas que ce soit une posture. Je ne vais pas leur faire ce grief-là. Mais je pense qu'on a besoin de, à la fois de mesures de cette nature-là et de garantir les libertés fondamentales. Et c'est tout le travail qu'on fera avec eux d'éclaircissement.
La Commission européenne a rejeté hier le projet d'alliance entre Alstom et Siemens. Le ministre de l'économie et le Premier ministre n'ont pas caché non seulement une déception, mais même quelque chose comme une forme de colère hier contre cette décision qu'ils ont considéré comme aberrante. Vous pensez que c'est une mauvaise nouvelle pour la majorité à 4 mois des élections européennes ?
C'est pas une mauvaise nouvelle pour la majorité, c'est une mauvaise nouvelle pour la France et c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe.
Oui, mais c'était un projet porté par le gouvernement.
Oui, c'est un projet assez ancien, hein, cette fusion Alstom-Siemens. Manifestement, on a besoin de revoir la doctrine et sans doute les textes. Le Premier ministre l'a rappelé d'ailleurs hier à l'Assemblée nationale. Ouais. Manifestement, la lecture que fait la Commission européenne de la concentration excessive se fait sur l'espace européen, alors que nous avons désormais dans ce domaine des concurrents, par exemple chinois. Quand vous pensez que la décision s'appuie sur l'idée que nous n'aurions pas de concurrents chinois sur ce sujet, je crois que les Chinois, l'opérateur chinois dont j'ai oublié le nom, il produit plus de 200 TGV ou équivalent TGV par an, et nous en produisons 30 à 40. Vous voyez bien qu'il y a quand même un opérateur dont on ne tient pas compte. Et moi, je regrette que la décision de la Commission vise en fait à empêcher que le niveau européen puisse se mettre en situation de concurrence.
Mais pourquoi la Commission européenne réfléchit-elle à si courte vue alors ?
Parce que sans doute elle s'appuie sur des traités ou des textes qui sont plutôt dans l'espace européen sur ces regroupements-là, en disant
pas du tout à la réalité du monde.
Mais il y a sans doute besoin d'adapter. Oui, il y a sans doute besoin d'adapter les doctrines de concurrence et de règles de concurrence de la Commission européenne avec ce qu'est la réalité de la concurrence et avec des géants qui se sont constitués d'un point de vue industriel au-delà de nos frontières.
La Commission européenne est bête et disciplinée. Elle regarde les textes.
Je sais pas si elle est bête et disciplinée. C'est pas comme ça qu'on va le juger. Mais en tout cas, manifestement, les décisions qui sont prises ne sont pas en conformité avec la réalité économique et la réalité industrielle.
La cote de popularité d'Emmanuel Macron est remontée dans les sondages. Il a gagné 6 points. Est-ce qu'il s'agit, selon vous, d'un effet du débat national ?
En tout cas, je pense que les Français ont reconnu chez Emmanuel Macron, chez le Premier ministre, la volonté de débattre, la volonté de mettre sur la table un certain nombre de sujets. C'est sans doute cela qui explique. Les sondages, après les sondages, il faut les regarder quand ils montent avec la même distance que quand ils descendent. D'ailleurs, vous ne m'entendrez jamais dire autre chose. Simplement, c'est le signe aussi que cette volonté de renouer le dialogue, qui en fait, au fond, n'a jamais été rompue, mais en tout cas, quelque chose qui était plus visible pour les citoyens a été perçu par eux, et c'est une bonne nouvelle.
Et parallèlement, un sondage révèle que 77% des Français trouvent la mobilisation des Gilets jaunes justifiée, et qu'un tout petit peu plus de la majorité estime que la mobilisation doit continuer pendant le débat national. Est-ce qu'il y a deux éléments une forme de paradoxe ?
C'est tout le paradoxe français, c'est à la fois la volonté... Sans doute que nous continuions à porter un certain nombre de mesures et de réformes, puis la volonté aussi que le débat puisse se nouer, qu'il puisse y avoir une confrontation démocratique. Je dis bien une confrontation démocratique. Et c'est bien l'enjeu du débat, et d'ailleurs la participation nombreuse des Français à ce débat est à saluer. Ça montre que ce pays avait besoin et a besoin en permanence de discuter, et donc il y aura la sortie du débat, puis la façon dont, en continu, on pourra dialoguer et discuter avec les Français.
Merci Marc Fesneau. Bonne journée.
Merci à vous.